Bonsoir à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui, et donc on est aussi à distance, pour une partie de soirée en tout cas, sur une thématique un petit peu sur le handicap, les activités physiques et les activités éducatives. Donc je m'appelle Didier Séguillon. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis enseignant, ou j'étais enseignant parce que je suis maintenant enseignant émérite, enfin en tout cas chercheur émérite de l'Université de Paris-Nanterre, depuis quelques semaines, donc c'est très récent. Et donc je suis accompagné de deux chercheurs, donc d'Isabelle Ville à ma droite et de Martial Meziani à ma gauche. On va mieux les connaître et rencontrer un peu leurs travaux dans quelques instants. Donc l'idée un petit peu du comptoir, c'est aussi travailler, en tout cas on a été invité par Madame Carré pour parler un petit peu des différentes publications qui sont donc à disposition des personnes qui souhaitent venir. Et donc, évidemment, on va partir un petit peu d'une revue, de la revue Alter, qui est aujourd'hui donc en vente ici même, en sachant que Madame Bill, tout à l'heure, on va le savoir, est la présidente de l'association Alter. Mais pas que ça. Donc, je vais déjà vous présenter directement. Donc, Isabelle Ville, qui est donc à ma droite, elle est directrice de recherche à l'INSERM. Elle est directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, chercheure au CEMS, le CMS, et également présidente donc d'Alter, comme je viens de vous le dire. Pardon. Et donc, à ma gauche, Martial Meziani, qui est maître de conférence HDR en sciences de l'éducation et de la formation à l'université CI Paris-Cergy Université. Et il nous parlera tout à l'heure, donc non pas de l'école, parce que ce sera Isabelle qui va nous parler un petit peu de l'école et de l'école inclusive. Martial nous parlera un petit peu du sport et du sport inclusif, et en particulier autour de la capoeira, une pratique un petit peu spéciale, on va dire, ou en tout cas spécifique, comme on va le voir. Voilà. Donc, l'idée un petit peu, c'est autour de la revue. Donc, on va discuter un petit peu autour de la revue Alter, et en particulier un petit peu d'un numéro qui est sorti il y a quelques mois, quelques années, quelques mois, regard croisé sur le handicap dans le contexte de la francophonie. C'est ce qui nous a un petit peu réunis pour faire cette table ronde, en sachant qu'évidemment, c'est possibilité d'avoir une interaction avec évidemment les présents dans la salle, et malheureusement pas à distance, parce qu'on n'a pas de terminal pour prendre des questions. Voilà un petit peu. Je vais d'abord donner la parole à Isabelle pour qu'elle se représente un petit peu au niveau de ses thématiques de recherche, avant peut-être d'attaquer plus spécifiquement l'école et l'école inclusive. Isabelle, à toi.
Merci Didier. Bonsoir à toutes et tous, y compris ceux que je ne vois pas. Me présenter, tu l'as fait très bien. Donc je suis sociologue. Je viens de la psychologie sociale, d'abord. Et je travaille sur les questions liées au handicap depuis en fait le début de ma carrière, ce qui fait quand même un certain temps, puisque je vais bientôt suivre le chemin de Didier, puisqu'on vient de m'accorder un éméritat, donc ça va être d'ici à moins d'un an que je prendrai ma retraite. Alors, j'ai travaillé donc sur ces questions à une période où il n'existait finalement pas vraiment de travaux, disons qui fassent cohérence, je veux dire, en France, c'est-à-dire qu'il y avait bien, il y avait des travaux sur la question, hein, mais de façon très fragmentée, de chercheurs isolés, etc. Et donc finalement, j'ai surtout œuvré à essayer de structurer un peu ces recherches dans le champ du handicap en France. Et dans le domaine des sciences sociales, parce qu'évidemment, il y a d'autres acteurs et d'autres chercheurs qui ont travaillé aussi sur ces questions, notamment dans les domaines cliniques ou technologiques en particulier. Voilà. Donc, ça a été... finalement, on est parti. C'est vrai que quand j'ai commencé... Alors, je ne vais pas parler très longtemps, il faut m'arrêter, parce que du coup, je ne m'attendais pas du tout à faire une espèce de biographie. Voilà. Donc, juste pour dire qu'à l'époque, c'était dans les années 80, donc ça remonte à un certain temps, il y avait effectivement très peu de connaissances sur le domaine, y compris même statistiques. On était incapable de dire combien il y avait de personnes handicapées en France. Il n'existait pas d'enquête nationale. On avait quelques remontées administratives, mais très parcellaires, par type de handicap. Voilà. Donc, c'était vraiment un champ vierge, pratiquement. Et donc, ben voilà, ça a été un des premiers travaux que j'ai fait, c'était de participer justement à ces grandes enquêtes nationales qui ont permis de réfléchir à ce que c'était, qu'est-ce qu'on mettait derrière le handicap. Est-ce que c'est les gens qui disent qu'ils sont handicapés? Est-ce que c'est certains types de limitations? Est-ce que c'est une reconnaissance administrative? Pour voir que toutes ces façons d'entrer ne se recoupaient pas tellement, finalement. Et que si on mettait tout ensemble, on arrivait à des populations assez énormes, genre 20% de la population. Et puis si on essayait de regarder le noyau dur, c'est-à-dire tout ce qui convergeait, donc le fait, par exemple, de déclarer avoir des limitations, des incapacités, d'être reconnu administrativement, ben on tombait à 3%, je crois. Donc, voilà, donc on avait cette espèce de... Et voilà, on a beaucoup travaillé sur ces questions. Ensuite, je me suis intéressée à la question de la réadaptation, donc traitement social du handicap par la voie de la réadaptation, qui a été une espèce des pratiques, mais aussi une idéologie qui a dominé pendant quand même très longtemps. Je me suis intéressée aussi, alors un petit peu un pas de côté, mais voilà, et je continue à travailler sur ces questions de prévention des handicaps à la naissance, c'est-à-dire tout ce qui est pratique de diagnostic prénatal, avec les interruptions médicales de grossesse qui vont avec, comment suivre ces parcours, comment se prennent les décisions, voilà. Donc, et puis l'école, effectivement, et ce fameux passage à l'inclusion, dont je pense qu'on aura l'occasion de reparler. Voilà.
Merci Isabelle. Je vais donner un peu la parole à Martial pour se présenter un petit peu son laboratoire, ses champs de recherche, ses champs d'études. Martial.
Oui, bah merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de l'invitation. Alors, je vais essayer d'être assez bref. Donc, aujourd'hui, je travaille sur un ensemble de domaines que moi, j'appelle espace formatif, dans lesquels on va dire qu'il y a un ensemble d'idées communes. Donc, l'école, le monde du travail social, les activités physiques et sportives également. On va rentrer un peu plus sûrement dans le détail après, qui sont des idées partagées, qui sont trans-institutions. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail au niveau conceptuel, et qui vont donner lieu à des pratiques et des formes de velléité chez les usagers et les professionnels communes, partagées. Parfois, ils le savent très bien, il faut constituer des groupes, et parfois, ils ne le savent pas, que c'est justement des conceptions et des pratiques partagées. Mais pour en arriver là, où finalement... Moi, je suis pas si, j'ai pas commencé dans les années 80 à faire de la recherche. J'ai commencé à faire de la recherche sur le handicap à partir de 2007. Donc, ça fait un peu plus de 15 ans. Il y a plusieurs domaines de recherche, mais j'ai surtout commencé à travers une thèse de doctorat qui était donc à travers les activités physiques et le handicap. Et moi, la question du handicap, elle intervient très tôt dans mon parcours personnel, mais surtout, ce qui moi m'avait frappé à l'époque et qui était précurseur de ce qui allait se passer en France, c'est que justement, il y a une partie de la thèse qui s'est passée au Brésil, qui était donc un terrain sur la capoeira à destination des personnes handicapées. Eh bien, quand on parlait des personnes handicapées au Brésil, il était question d'inclusion en permanence. Et en France, le mot inclusion n'était quasiment pas utilisé. Vraiment, ça n'émergeait pas. Il y avait la loi de 2005 qui était apparue très peu de temps avant. On parlait de scolarisation en classe ordinaire ou en milieu ordinaire, hein, pour ne pas dire école inclusive. Ça recoupait un peu les mêmes choses qu'il y a eu par la suite. Mais donc, du coup, le terme inclusion, qui va être, à mon avis, effectivement au cœur de nos discussions, a émergé du terrain, en fait, de cette activité-là. Et depuis, quelques années plus tard, après la thèse, j'ai travaillé sur la scolarisation, justement, des élèves reconnus handicapés. On commençait à parler d'inclusion aussi. Et puis après, plus tard, ça a été sur les étudiants en situation de handicap, où aujourd'hui, on parle d'université inclusive depuis, finalement... J'ai pas envie de dire quelques mois, mais pas loin. Ça fait 2-3 ans qu'on commence à avoir des programmes qui se disent université, qui œuvrent pour une université inclusive. Et donc, quelque part, je suis au niveau temporel par rapport à ce qu'expliquait Isabelle. Je suis dans le coup d'après, c'est-à-dire ce qu'elle expliquait, c'est comment ça a émergé. Ben moi, je vois les effets de la reconnaissance de handicap aujourd'hui, par exemple, sur les stratégies des étudiants ou des parents. Isabelle l'a vu aussi sur nous pour l'école inclusive et d'autres chercheurs également. Mais disons qu'il est question de reconnaissance et les questions finalement d'échange entre professionnels et entre guillemets usagers sont au cœur en fait de mes travaux de recherche. Et donc je pense qu'on va pouvoir continuer à échanger là-dessus.
Merci Martial. Alors Isabelle, je t'avais présenté tout à l'heure comme présidente d'Alter. Est-ce que tu peux dire deux mots un petit peu d'Alter ? Et puis après, on commencera à travailler un peu et à parler de l'école inclusive.
Oui, alors Alter, c'est d'abord une société savante qui est née dans les années 80, je crois que c'est 86, alors pas du tout à mon 88, merci, 88, à l'initiative d'un chercheur qu'on pourrait considérer comme le père fondateur de la recherche en France sur les questions de handicap, qui est Henri-Jacques Sticker, qui est assez difficile à définir, hein, qui est à la fois philosophe, historien, anthropologue, qui est toujours parmi nous et qui continue à produire beaucoup. Et donc cette association, elle avait, dans un premier temps, elle avait pour mission en fait de réunir finalement des personnes francophones. C'était, il y avait pas que des Français, mais enfin c'était une association francophone, à la fois pour échanger sur ces débats, sur ces concepts, et puis aussi pour organiser des événements, pour diffuser un peu ses premiers travaux. Enfin, c'était vraiment le besoin, comme je disais tout à l'heure, il n'y avait rien. Donc on a réuni les quelques personnes isolées qui travaillaient, qui s'intéressaient à ces questions au sein de cette espèce de petite communauté. Et puis, il y a eu des publications quand même, dont une d'ailleurs, dont je tiens à parler, parce que malheureusement, elle n'a pas été rééditée et c'est une mine. C'est un livre qui s'appelle « L'institution du handicap ». Je ne sais plus le sous-titre, qui est paru en 2000 et qui réunit, enfin c'était des actes d'un colloque, mais qui réunit tout un ensemble justement, qui fait la somme de tout ce qui existait à ce moment-là et qui est assez précieux, je trouve. Et on le trouve en ligne sur le site de l'association Alter, justement. Voilà, et puis quelques temps après, l'association a décidé un peu de prendre de l'ampleur. Elle a surtout sorti la revue Alter donc en 2007, qui a d'abord été éditée par un éditeur privé. Et puis, il y a 2 ans, avec aussi cette volonté d'ouvrir vers la science ouverte, vers l'accès libre, etc., elle a été reprise donc, par un éditeur non privé, donc les éditions de l'EHESS, et aussi elle est en accès libre sur Open Edition de Journal. Voilà, et par ailleurs, Alter aussi organise depuis 2012 des conférences annuelles. C'est pareil, c'est aussi toujours un outil de structuration de ce champ de recherche, en fait. Et c'est, alors, Alter, c'est quand même la société européenne de recherche sur le handicap, ou la revue, c'est la revue européenne de recherche sur le handicap. Elle publie en français, mais aussi en anglais. Et donc, les conférences sont européennes, voire internationales, parce qu'on a quand même des chercheurs qui viennent de tous les continents, finalement. Et avec cette volonté, justement, de permettre aux jeunes chercheurs de présenter leurs travaux, de discuter leurs travaux, de même qu'on essaie aussi d'inciter les jeunes chercheurs à publier dans la revue. Voilà, c'est vraiment un outil à la fois pour diffuser, un outil de diffusion, un outil de cohésion aussi d'une communauté scientifique. Voilà ce que je peux dire.
Merci Isabelle. Alors je vais rappeler un petit peu le thème, hein, qui était le joli thème, c'était « Vivre le sport et l'école en situation de handicap ». Alors, je trouve que c'est très très joli. Alors évidemment, il y a plusieurs questions, mais la première question un petit peu que je vais poser à nos invités, là, c'est un petit peu la notion d'accessibilité, hein, qui est une notion importante, qui a émergé depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, et on cherche un petit peu à trouver et à penser un petit peu à l'accessibilité. Alors, je vais peut-être demander à Martial, d'abord, un petit peu, cette accessibilité au niveau des pratiques sportives. De façon générale, un petit peu, est-ce que tu peux nous dire quelque chose un petit peu sur cette notion d'accessibilité aux pratiques sportives, avant de parler plus particulièrement de la capoeira ?
Ben, je crois que c'est pour ça que je suis là, non ? Donc, sur la question de l'accessibilité aux activités physiques et sportives, Il y a plusieurs dimensions. Bon, la première, qui est extrêmement basique mais fondamentale, c'est la question de l'accessibilité du bâtiment ou en termes de communication. c'est dans la loi de 2005, hein, il faut que les établissements recevant du public soient accessibles. Il s'avère que c'est comme les écoles qui datent d'une certaine période. Ben, quand vous avez 3 marches pour monter, 3 marches pour descendre, 1/2 étage en dessous, 1,5 étage au-dessus, bon, ben là, ça devient compliqué. Bon, il y a quand même cette dimension-là. Et par exemple, je suis à l'Université de Cergy. Il y a le service universitaire des activités physiques et sportives qui se situe sous une dalle qui aujourd'hui ne peut pas être rénovée pour être accessible. Donc la solution qui est proposée, c'est tout simplement, voilà, il y a un gymnase sur tel site de l'université, vous pourrez y aller, sauf qu'il n'y a aucune activité proposée par le service universitaire pour y accéder. Donc il y a ces aspects-là. Alors là, je vous montre un trait d'inaccessibilité, mais le premier élément est là. Donc la question de l'accessibilité, c'est une question qui est à la fois politique, obligation réglementaire, mais aussi de volonté et de réalité concrète, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que s'il y a des espaces qui ne sont pas constitués du tout comme étant modulables, en fait, des mobiliers urbains, on ne va pas pouvoir les rendre accessibles. Donc ça veut dire qu'au niveau de la volonté, il y a les moyens à mettre, mais il y a aussi les espaces où avoir cette activité. Donc ça veut dire que si je veux avoir une activité accessible au sens du handicap tel que c'est compris ce soir, je vais devoir me trouver dans un lieu où c'est accessible, tout simplement. Puis après, il y a la volonté aussi. Vous voyez, on est beaucoup sur la bonne volonté, l'initiative individuelle. Si je suis une association de boxe, est-ce que j'accepte d'accueillir des personnes paraplégiques ? Et des personnes ayant un handicap mental. Si j'imagine que le traumatisme est à la tête, j'imagine qu'il y a un traumatisme à la tête, si les gens se touchent sur la tête, il peut y avoir un coup un peu fort, il peut y avoir un risque. Alors ça, évidemment, c'est des représentations qu'on peut entendre dans des recherches, dans des entretiens. Donc on va avoir une réticence à rendre accessible l'activité. Donc il y a la question des représentations, en fait, qui joue énormément sur comment on va rendre accessible une activité. Mais peut-être que vous l'aurez perçu, ça c'est des premiers éléments, c'est des prémices. C'est quand on se dit, moi je fais du sport, je fais de la boxe, de l'athlétisme, j'ai envie d'accueillir des gens, mais j'ai juste envie de les accueillir, je veux juste qu'ils viennent. Et en fait, quand on regarde un peu plus dans la conception même des sports, il y a quelque chose qui fait que l'activité physique ou sportive va être plus ou moins accessible, c'est le sens même de cette activité pour les gens qui la pratiquent. Je m'explique. Si on est dans une activité à forte volonté compétitive et performative, forcément, les gens qui vont être accueillis dans ces activités-là, ça va être des gens qui vont être dans cette optique-là, et surtout, on va les sélectionner pour être performant, pour être bon compétiteur. Typiquement, le judo, la gymnastique, le football, toutes les pratiques olympiques avec forte valence en médaille et toutes les activités potentiellement très lucratives sur le plan professionnel sont peu accessibles aux gens en général. Donc la question de l'accessibilité, elle se joue aussi du point de vue des personnes qui enseignent l'activité. Ce qui rejoint un peu les enjeux de l'école. Si on est avec des enseignants qui, justement, vont être dans une dimension de compétition scolaire, de hiérarchie scolaire, d'exigence en termes de diplôme, ça va être plus difficile d'accueillir. Oui.
Mais c'est la même chose pour les clubs qui accueillent du public en situation de handicap et qui voudraient, par exemple, pour les Jeux paralympiques, qui voulaient sélectionner. C'est exactement la même logique à ce moment-là.
Ouais.
Ils vont choisir les meilleurs parmi les gens handicapés.
Oui, complètement, oui.
Voilà. Donc ça veut dire qu'aucun des deux n'inclut complètement. Rien n'est construit avec, mais c'est construit a priori pour tous ceux, sauf ceux qui pourraient.
Alors justement, il y a deux aspects dans ce que vous dites. Il y a le premier élément, c'est quand je disais que justement, si on est dans une intention individuelle ou collective de compétitivité, de performance physique, que ce soit dans le parasport ou dans le sport plus traditionnel, On est bien d'accord. En revanche, on va avoir des espaces qui ne vont pas être du tout construits sous cette logique-là, même avec de la compétition. C'est-à-dire qu'il y a des clubs de sport qui vont allier en fait le côté convivialité, vivre ensemble, avec l'aspect compétitif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est pas une nid cellulaire, entre guillemets, c'est pas une nid intentionnelle. Il peut y avoir plusieurs logiques à l'œuvre, en fait, dans un même espace. Après, c'est l'accueil qui va différer. Ça va être des horaires différents, ça va être à la même heure, mais avec des objectifs différents, plus individualisés. On rentre plus, justement, dans des dimensions de suivi individualisé, si vous préférez, en fonction des capacités supposées des personnes, de ce qu'on envisage, de ce qu'on imagine comme carrière possible. Ce qui est important ici, c'est que c'est jamais accueillir pour accueillir. C'est toujours accueillir pour produire quelque chose, produire une société, un microcosme, ou produire de la performance. Parfois, ça va s'articuler. Et puis, il y a un autre aspect où on va avoir des activités physiques. Alors, c'est moins le cas en France, plus le cas dans d'autres pays, qui vont justement être ajustées en fonction de la diversité. Alors, il y a la capoeira, qui n'est pas ajustée en fonction de la diversité, mais qui, par un système qui est globalement non compétitif, dans les interactions motrices, dans les interactions entre joueurs, fait qu'on peut accueillir de la diversité dans l'interaction dans le jeu. Puis il y a des activités au départ sportives séparées qui vont devenir accessibles dans le sport lui-même, dans l'activité elle-même. Donc je pense par exemple au Baskin, qui est un basketball inclusif, où on va donner des rôles spécifiques et donc on va avoir des personnes à mobilité réduite, paraplégiques par exemple, qui vont être dans la même équipe que des personnes dites valides avec un bon niveau sportif. Donc il y a des organisations qui vont se faire en fonction de ces enjeux inclusifs, mais qui ne sont pas des activités, j'ai envie de dire majoritaires, évidemment, ça c'est clair. Et voilà.
Merci pour les premiers éléments, voilà, de l'accessibilité. Isabelle, l'accessibilité de l'école, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ?
Alors, moi j'ai un tic, si je puis dire, c'est que quand je commence à parler de ces thèmes, j'éprouve vraiment le besoin de les resituer historiquement. Et en fait, il faut rappeler quand même que... Alors, j'ai recopié la phrase du préambule de la Constitution de 1946 qui concerne l'instruction et qui dit « La nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État. » Donc 1946. Alors, de fait, comment ça s'est passé ? Alors, c'est vrai que la France s'est acquise de cette mission par un traitement séparé, essentiellement, c'est-à-dire en développant des pédagogies adaptées, en formant des enseignants spécialisés et en dispensant cette instruction dans des structures spécialisées. Structures spécialisées qui étaient, pour 80% d'entre elles, encore en 75, je crois, de gestion privée, hein, privée essentiellement des associations de famille, voilà, mais aussi des structures confessionnelles. Et il y avait quand même un petit pourcentage, donc autour de 20%, de structures qui relevaient de l'éducation nationale, mais des structures spécialisées également. Alors, pour autant, je voudrais faire deux précisions. D'une part, si on adopte le périmètre actuel des enfants en situation de handicap, des écoliers en situation de handicap. Alors, il faut dire qu'en 1946, un bon nombre de ceux qu'on mettrait dans cette catégorie aujourd'hui étaient à l'école ordinaire. Mais tout simplement, ils n'étaient pas considérés comme des enfants en situation de handicap. Voilà. Et ce sont donc surtout ceux qui avaient des déficiences plus visibles, plus avérées, plus incontournables, je dirais, qui est donc se retrouver dans les institutions. Ça, c'est le premier point que je voulais faire. Et le deuxième, c'est aussi ne pas penser trop vite qu'en tout lieu et en tout temps, ces pratiques institutionnelles avaient une visée ségrégative. Ce qui aujourd'hui est très... ce qui est beaucoup critiqué aujourd'hui, avec justement la notion d'inclusion, etc. On y reviendra, je pense. Bien au contraire, les premières initiatives avaient véritablement une mission émancipatrice. Alors, je peux donner en tout cas un exemple flagrant, c'est Bourneville, qui était un aliéniste, qui travaillait donc à l'hôpital Bicêtre, à l'asile, et qui accueillait des enfants internés, dont un certain nombre pouvaient accéder à l'instruction. Il a d'ailleurs créé une école au sein de l'hôpital. Mais il était convaincu qu'un certain nombre d'entre eux pouvaient rejoindre l'école ordinaire, avaient les capacités pour ça, mais ne pouvaient pas le faire directement. Et il a beaucoup milité pour l'ouverture des fameuses classes de perfectionnement qui ont été effectivement instaurées en 1909. Donc lui, ça a été un des promoteurs. Donc avec vraiment... Alors il y a eu d'autres promoteurs et ça a convergé effectivement qui avaient plutôt une visée plus ségrégationniste, évidemment. Je pense donc notamment à Binet et Simon et les pères, entre guillemets, du quotient intellectuel. Mais vous voyez, une même orientation peut être prise finalement avec des motifs extrêmement, voire opposés, quoi. Et puis les premières familles, les premières associations de familles d'enfants handicapés, ben, on construit tout simplement des structures parce qu'il n'y avait absolument rien pour effectivement éviter que leur enfant se trouve dans un système asilaire ou complètement confiné dans la famille. Et donc, on commençait à faire des pouponnières, des maternelles. Puis au fur et à mesure que les enfants grandissaient, des instituts médico-éducatifs, etc. Voilà. Donc tout ça, on ne peut pas dire que tout ça avait, si vous voulez, toutes ces initiatives avaient une volonté de ségrégation. Par contre, ce qui est vrai aussi, c'est que au fur et à mesure, enfin surtout à partir du moment où l'État finalement a décidé de, bon, l'État providence, hein, c'était en 56, de financer ces institutions privées, mais sans finalement en déléguant finalement aux associations de parents. Mais là, on a vu se démultiplier ces structures et de fait. Il y a eu des structures, alors voilà, il y avait de tout, c'est-à-dire il y avait effectivement des structures qui étaient très pointues avec des méthodes pédagogiques vraiment adaptées, qui s'occupent, enfin qui prenaient vraiment bien, qui accompagnaient beaucoup bien les jeunes, et puis d'autres où c'était vraiment des enfants étaient livrés à eux-mêmes et qui étaient véritablement maltraitantes. Et donc, juste, je finirai peut-être... Enfin, je ne sais pas, tu me diras, Didier, comment tu vois les choses. Mais à partir des années 70, alors peut-être parce que... Certainement parce qu'il y a une évolution générale. Il y a des aspirations autres qui apparaissent avec plus d'individualisme, plus de volonté de choisir son mode de vie, etc. Et ça se manifeste par des tas de... par exemple, les internats vont disparaître. Voilà, avant cette période, il y avait beaucoup d'enfants qui étaient éduqués et scolarisés en internat. Donc à partir de ces années-là, ces institutions vont être effectivement critiquées, aussi parce qu'elles sont maltraitantes, aussi parce qu'il y a des personnes handicapées qui considèrent que, voilà, elles veulent choisir leur mode de vie et qu'elles ne veulent plus être astreintes aux règles institutionnelles. Bon, ça a commencé d'ailleurs pas tant dans le champ du handicap, mais plus dans le champ de la psychiatrie, comme vous le savez, particulièrement en Europe, où on a commencé à avoir une volonté de désinstitutionnaliser. Et ensuite, ça s'est prolongé dans le champ du handicap. Voilà. Alors après, je peux continuer, mais c'est peut-être pas le moment.
Oui, on reviendra un petit peu là-dessus. Alors, peut-être pour compléter un petit peu ce qui a été dit, surtout Isabelle, c'est que dans mes propres recherches, évidemment, j'ai travaillé aussi sur justement la scolarisation et des enfants en situation de handicap, en particulier des sourds. Et on trouve les premières traces quand même d'intégration ou d'inclusion au début du 19e siècle. Alors ça paraît très, très étonnant parce qu'évidemment, tout le monde pense que l'inclusion, c'est il y a quelques mois, quelques années, comme a dit Martial tout à l'heure, alors qu'il y a des gens qui ont fait de l'inclusion déjà dans les années 80, 70, mais ils ne savaient pas. Ils faisaient de l'intégration, mais dans les faits, ils faisaient de l'inclusion. Mais on retrouve les traces, déjà, des expériences individuelles. Ça s'appelait le banc du sourd en 1830, à Paris, 33. Il y a dans les classes de Paris... un banc, c'est-à-dire une place qui est réservée pour les enfants, entre guillemets, sourds, là pour la première fois, après ça sera même pour les aveugles. Dans les faits, évidemment, on n'a pas trouvé de traces, enfin, les chercheurs n'ont pas trouvé de traces de l'existence même de l'accueil de ce type d'enfants. Donc je suppose que c'était que sur le papier, mais peut-être qu'il y en a eu quelques-uns quand même qui ont été intégrés dans l'école publique de Paris. Donc ça, c'est intéressant. Donc ce qu'on appelle une inclusion ou une intégration individuelle. Alors ça, beaucoup de gens ne le savent pas et c'est important de le redire. Et puis, une des traces aussi d'intégration, ce qu'on appelle collective, de classe, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui les ULIS, par exemple, on en trouve déjà autour de l'Institut national des jeunes sourds de Paris, également donc à Paris. Et là, c'est des classes entières qui sont intégrées dans les écoles de proximité de l'Institut. Donc les expériences qui vont avoir lieu dans les années 2010-2020, c'est des choses qui ont déjà été, entre guillemets, testées. Alors c'est intéressant parce que comme personne connaît très, enfin beaucoup, enfin peu de personnes connaissent ce parallèle possible, on n'en a pas tiré non plus les conclusions et les conséquences et pourquoi ces modèles-là ont été abandonnés dans le passé. Alors je ne dis pas forcément que ça va être abandonné dans les prochaines années non plus, mais c'est quand même intéressant de le voir, de voir ces aspects-là. Et puis dernière chose quand même que je voulais dire en complément de ce qu'avait dit Isabelle, elle a été cherchée donc après la Seconde Guerre mondiale, mais on retrouve évidemment des choses intéressantes autour de la Troisième République et de la mise en place de l'école gratuite et obligatoire. Et donc, entre autres, il y a dans les différentes lois, mais entre autres dans la loi de 1982, il y a un article, qui dit qu'il y a des écoles et des classes spécifiques et spéciales qui vont être créées pour accueillir des enfants aveugles et sourds. Ça, c'était en 1982. Mais dans les faits, on va aboutir, comme a dit Isabelle, en 1909, à la création d'écoles spéciales, mais pas du tout pour les sourds et pour les aveugles, mais pour, entre guillemets, ce qu'on appelait les idiots à l'époque, les personnes déficientes intellectuelles. Donc on a changé de public. C'était intéressant. Et donc là, pour les sourds, il y a à la fois, et les aveugles, il y a à la fois des écoles publiques et des écoles privées en parallèle. Et donc il y a toujours ce jeu un petit peu entre le privé et le public qui a lieu. Donc quand même, Isabelle, pour finir un petit peu sur la première partie, là, en termes d'accessibilité, donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, quand même, l'école doit être accessible. On est bien d'accord. Et dans quelle mesure ça doit être accessible? Est-ce que ça doit être déjà au niveau matériel? Et est-ce qu'on s'arrête là-dessus? Ou est-ce qu'on doit avoir des dispositifs spécifiques? Ça sera la deuxième question qui était posée. Est-ce que dans l'école, je vais te redonner la parole tout de suite, comme ça tu vas pouvoir répondre, est-ce qu'il y a des dispositifs qui sont un peu prévus, pensés par rapport à cette accessibilité?
Oui, alors je ne vais pas t'apprendre que la réponse est oui. Oui, alors depuis finalement 1975, où il y a une première grande loi cadre sur les questions de handicap, effectivement, et on parle non pas d'inclusion, mais bien d'intégration à l'époque, l'intégration est une obligation nationale. Et donc, l'idée, c'est vraiment, effectivement, pour les enfants, les écoliers, les jeunes, de favoriser l'instruction, l'éducation dans l'école ordinaire. Donc ça, c'est vraiment une volonté affichée dès 1975. Donc c'est pareil, on pense que ça vient beaucoup plus tard parce que c'est lent, évidemment, à mettre en place. Mais il n'y a pas vraiment de rupture dans les années 2000. Enfin, petite rupture quand même. Mais voilà. Donc il y a tout un tas de dispositifs qui vont commencer à se mettre en place dans les décennies suivantes. Donc avec l'idée, il y a déjà l'idée aussi qui est inscrite dans différents textes, notamment dans une loi générale sur l'éducation de 1989 qui propose de combiner à l'intérieur de l'école l'éducation et les soins, en faisant finalement rentrer dans l'école ce secteur médico-social qui était donc le secteur privé, mais en l'amenant dans l'école pour que les élèves soient intégrés avec leur père, voilà. Bon, et puis donc tout ça va faire que effectivement, de fil en aiguille, on va avoir de plus en plus d'élèves qui vont être scolarisés dans les écoles ordinaires. Alors quand on dit dans les écoles ordinaires, c'est pas forcément dans les classes ordinaires, parce qu'il y a effectivement toujours ces classes spéciales qu'on appelle après CLIS puis ULIS. Ce n'est plus les classes de perfectionnement, mais ce sont les avatars suivants. Même si aujourd'hui on dit plus classe, mais on dit dispositif, parce que justement on veut pas que ça ressemble à une classe, parce que l'idée c'est quand même que les élèves de ces dispositifs aillent dans la mesure du possible dans des classes ordinaires pour certaines matières par exemple ou à certains temps. Donc voilà, tout ça va se mettre en place très progressivement. Et pour vous donner un ordre d'idée, alors, et puis c'est devenu complètement exponentiel. C'est-à-dire que les chiffres que j'ai en tête, c'est en 2005, donc au moment d'une autre loi, on avait 150 000 élèves qui rentraient dans ces dispositifs et qui étaient dans l'école ordinaire, que ce soit en classe spéciale ou en classe ordinaire. Aujourd'hui, en 2022, c'est 430 000. Donc on a multiplié par 3 quasiment. Le nombre. Alors, ça soulève des tas de questions quand même. Et les institutions, on ne peut pas dire qu'elles se soient vidées. C'est-à-dire, il y a alors un petit peu moins. Je crois qu'on est à 67 000 en 2022. On était à 80 000 en 2005. Oui, c'est ça. D'élèves qui sont complètement institutionnalisés. Donc, finalement, qu'est-ce que ça dit, ça? Ça dit qu'au fond, il y a une augmentation des élèves en situation de handicap. Voilà. Et cette augmentation, elle est en quelque sorte endogène à l'école, c'est-à-dire que, de toute évidence, il y a des élèves qui, avant, étaient dans l'école, mais pour lesquels il n'y avait pas de reconnaissance particulière. Et c'est vrai qu'on sait par ailleurs, il y a beaucoup d'études qui le montrent, que les diagnostics se sont démultipliés, parce que l'accès, justement, à ces dispositifs, alors peut-être je dois faire une petite parenthèse là-dessus, pour accéder donc à ce dispositif, il faut faire une demande auprès des maisons départementales des personnes handicapées, qui est en fait le guichet unique pour toutes les questions qui concernent le handicap. Et cette demande faite par les familles doit être accompagnée d'un diagnostic, d'un certificat médical attestant d'un trouble. Et à partir de là, il y a une commission pluridisciplinaire qui va évaluer les besoins, qui va faire un projet personnalisé de scolarisation, qui va proposer une orientation, qui peut être une orientation en classe ordinaire ou dans une classe spéciale de l'école ordinaire, avec éventuellement un accompagnant, avec du matériel adapté éventuellement. Ça peut être aussi dans des institutions séparés. Hein, la loi de 2005 qui est arrivée derrière ajoute quelque chose quand même au dispositif qui est très important, c'est qu'elle donne le droit à chaque enfant, chaque élève, d'être accueilli dans l'école, une école de proximité, voilà, dans une école de référence qui est une école proche de chez elle ou chez lui. Voilà. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important parce que, en quelque sorte, ça veut dire que l'école ne peut pas refuser l'accueil d'un enfant en situation de handicap. Et c'est vrai que ça amène à des situations compliquées parce que parfois, on va préconiser une orientation en institution spécialisée, mais on manque de place dans ces institutions. Et dans ces cas-là, l'école se doit d'accepter un élève qui va avoir beaucoup, beaucoup de difficultés à effectivement s'intégrer dans la classe. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que... Oui, donc juste pour dire, voilà, il y a une espèce de... Ce qui est important à avoir aujourd'hui, c'est que voilà, il y a une offre qui est ce dispositif qui a finalement provoqué... c'est ce qu'on même beaucoup de chercheurs parlent de médicalisation de l'échec scolaire, c'est-à-dire que finalement on fait passer par la responsabilité d'un trouble ou de quelque chose d'organique des difficultés qui peuvent être sont liées à des troubles, mais d'autres peuvent être liées à des problèmes différents, des problèmes plus culturels, plus, et d'ailleurs il faut bien dire aussi que ces reconnaissances concernent davantage, certains types de diagnostics concernent davantage des classes populaires, particulièrement d'origine migrante, hein, notamment les troubles du comportement ou du TDAH, hyperactivité et troubles de l'attention et de l'hyperactivité, etc. Et ce que montrent aussi certaines études, c'est que certaines classes, justement, des familles plutôt favorisées, vont assez bien se débrouiller avec le dispositif, c'est-à-dire vont savoir où s'adresser pour trouver le bon diagnostic, qui sera pas trop stigmatisant, mais qui permettra quand même, parce que, comme le disait Martial tout à l'heure, enfin, l'école reste quand même très compétitive, et d'ailleurs, le PISA vient de tomber, là, on n'est pas... L'enquête PISA, qui est l'enquête de l'OCDE, qui classe, si vous voulez, les systèmes scolaires de tous les pays de l'OCDE, voilà, depuis je ne sais pas combien d'années, ça... Et on n'est pas bon du tout. On n'a jamais été très bon, mais c'est de pire en pire. Voilà. Donc voilà, il y a quand même une injonction forte à l'efficience en fait, du système scolaire. Il y a des classements. Enfin, on sait très bien tout ça. Et je ne sais plus très bien ce que je voulais dire, finalement.
Oui, ben voilà. Que l'école était très compétitive. C'est ça que tu voulais dire.
Ah oui, il y a des familles. C'est ça que je voulais dire. Il y a des familles qui savent s'arranger, si vous voulez, avec le dispositif pour bénéficier d'une aide. Et à l'inverse, il y a des familles... Alors, c'est compliqué parce qu'en France, il y a un peu deux orientations dans la psychiatrie. Il y a le comportementalisme, pour faire un peu simple, qui va plutôt être sur ces nouveaux troubles, dyslexie, dyspraxie, qui va proposer ce type de diagnostic, qui est plutôt dans le secteur libéral. Et puis, on a les CMP, qui restent du secteur public, et plus d'orientation, bon, c'est un peu réducteur hein, ce que je vous dis, mais plus psychanalytique. Et évidemment, les enfants des classes populaires vont être adressés, c'est l'école. Hein. C'est l'école qui incite souvent les parents, alors, sauf pour des déficiences qui sont avérées, voilà, mais pour tout ce qui est lié aux troubles des apprentissages, aux difficultés d'apprentissage, l'école va souvent inciter les parents à consulter, pas pour n'importe quel trouble, pour les troubles qui gênent l'école. Et ça, moi, j'ai beaucoup vu sur le terrain. J'ai vu, par exemple, une petite fille qui avait manifestement des troubles, mais qui était tellement inhibée, tellement silencieuse, qu'on ne s'en est pas du tout préoccupé. Par contre, un petit garçon un peu agité, alors là, on a demandé à la famille de consulter. Et dans ces cas-là, ces familles plus populaires, elles vont consulter plutôt les CMP. Et les CMP sont peu enclins à diagnostiquer. Ça, c'est la version plus psychanalytique des troubles. Ils n'ont pas envie de figer un trouble avec une étiquette et un stigmate. Et par ailleurs, les familles migrantes, souvent, rejettent aussi la stigmatisation et le diagnostic. Leur enfant, oui, d'accord, il est un peu turbulent, mais il n'est pas handicapé, quoi. Hein. Donc, en fait, on peut se poser la question de savoir si les besoins, dans quelle mesure ils sont couverts réellement. On ne sait pas vraiment ça, en fait. Voilà. Je m'arrête là parce que j'ai parlé beaucoup.
Il y avait une question.
Pas vraiment une question, mais justement pour couvrir les situations des personnes qui sont quand même intégrées dans l'école, quoi qu'elles soient turbulentes ou aient des troubles, il y a un système qui est mis en place, c'est celui des LSH, donc une personne qui va quand même se rapprocher des personnes en difficulté dans les classes pour pouvoir
y assister. Oui, ça fait partie, c'est un des outils du dispositif. Et justement, ces AESH, elles augmentent encore plus vite que le nombre d'enfants reconnus. Donc ça, parce que c'est effectivement, mais là encore, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, on voit bien les enseignants font souvent des demandes justement pour avoir le support d'un, on peut plus souvent dire une AESH, justement parce que c'est difficile. Il y a certains enfants qui sont difficiles à maîtriser, à contrôler. Donc, tout ça est quand même lié. Alors après, je ne veux pas nier non plus la réalité de certains problèmes. Hein. Je pense qu'il y a, et c'est ça qui devient compliqué d'ailleurs, c'est cette catégorie du handicap aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle représente. Parce que maintenant, aujourd'hui, on est devenu à la fois... Il y avait politiquement une espèce de volonté d'homogénéiser, de regrouper, et c'était aussi la volonté des mouvements des années 70 pour faire valoir des revendications. Aujourd'hui, on voit que c'est un peu l'inverse qui se produit. On est plus dans l'hyperspécialisation, la reconnaissance de troubles, mais de troubles beaucoup plus spécifiques. Et du coup, voilà, c'est une vraie interrogation, je trouve, pour l'avenir.
Merci, Isabelle. Donc, on va redonner la parole à Martial. Donc de parler un petit peu des dispositifs, globalement, dans le terme de dispositifs, par rapport à l'accessibilité donc des pratiques sportives, et tu peux prendre évidemment tes exemples dans la capoeira. Quelle est la démarche? Quel est le traitement didactique, par exemple, de l'activité physique, s'il y en a un? S'il y a d'autres dispositifs spécifiques qui peuvent exister un petit peu.
Alors, didactique, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à l'approche didactique. Par contre, c'est En fait, il y a des activités qui, évidemment, facilitent l'accueil de l'ensemble des publics possibles. D'abord, il va y avoir, donc, comme je le disais tout à l'heure, des activités qui, déjà, ne sont pas compétitives, où il y a de l'affrontement, mais ce n'est pas la finalité de l'activité, ou des activités qui sont coopératives, mais avec l'idée qu'on est partenaire essentiellement, parce qu'il y a des activités coopératives d'affrontement comme le foot, par exemple, hein, dans lesquelles on peut didactiquement, justement, organiser les choses pour accueillir une diversité. Or, moi, il me semble que ça, c'est important, c'est que c'est pas ça qui va faire qu'on va rendre l'activité accessible, c'est l'intention qu'on met derrière. Et justement... moi, je vois trois aspects. Ça rejoint les questions de l'école et finalement des sociétés dans lesquelles on vit. Le premier aspect, c'est, admettons, on est dans cette idée de performance dont je parlais tout à l'heure. On va organiser une activité où on va pouvoir mesurer la performance. Très simplement. Admettons, on est dans une activité où on est dans une intention, on va favoriser le vivre ensemble, on peut partager un moment, voilà, je sais pas, on veut faire une foire, il y a des ça existe, hein, des espaces où on va faire découvrir des activités. Il y a des fédérations multisports qui font beaucoup ça, notamment à la rentrée, où on vit des Jeux Olympiques. Le sport pour tous, quoi, hein, finalement. Et donc, on va être sur des activités partagées et dans lesquelles peuvent s'insérer des activités donc, comme le baskin, la capoeira, la boccia aussi, où là, c'est, on va handicaper les personnes qui n'ont pas de handicap visible. La boccia, c'est pour les aveugles au départ, hein, c'est ça ?
C'est pas que ça, mais...
Les malvoyants. Et donc, on va handicaper littéralement une personne voyante pour qu'elle puisse participer avec... voilà. Donc, c'est comme le basket en fauteuil. Bah, une personne qui est entre guillemets, valide, on va la mettre en fauteuil. Et comme ça, elle peut participer à une compétition avec des personnes paraplégiques, par exemple. Et puis après, il y a tout un système de cotation en fonction du type de déficience aussi dans ces activités-là. Je ne rentre pas dans les détails. Déjà, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé ça. Et puis, je ne suis pas forcément un grand spécialiste de ces questions. Et donc, globalement, en fait, il y a cet aspect où soit on veut avoir un moment partagé, soit on veut avoir un moment compétitif, soit on veut allier les deux. Alors là, par exemple, ça c'est quelque chose d'assez frappant, les enseignants en éducation physique et sportive n'envisagent pas une activité pédagogique sans progression, sans que l'élève apprenne quelque chose. Donc faire une activité corporelle, physique, où on va danser dans la nature sans un objectif pédagogique d'apprentissage, ça n'a pas de sens pour un enseignant. Donc forcément, même dans une activité de vivre ensemble, on va avoir une exigence. Le problème de l'exigence, c'est qu'il faut pouvoir préparer son coup, puisque des fois, on va être trop exigeant. On va être dans une exigence où l'élève, on ne l'a pas préparé suffisamment pour répondre à cette attente. Et du coup, il y a ces enjeux justement entre progression et vivre ensemble. Progression qui peut amener à l'idée de performance également. Ce n'est pas la même chose, mais c'est lié. Donc dans les clubs sportifs, on a le même genre d'enjeu, hein, évidemment. Mais ce qui fait que, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fonction de l'intention ou des multiples intentions qu'on peut avoir dans un espace donné, on peut avoir un accueil accessible en même temps que du haut niveau, du haut niveau de compétition. Le problème, c'est qu'il faut que ce soit pensé et construit. Notre grand président de la République, Emmanuel Macron, à l'idée des Jeux Olympiques 2024, avait dit que les Jeux Olympiques seraient l'occasion du sport pour tous. Par principe, d'un point de vue philosophique, paradigme idéologique, ça ne va pas ensemble. Spontanément, ça ne va pas ensemble. Donc, il faut le construire. Et il ne me semble pas qu'aujourd'hui, on l'ait construit. Ce n'est pas le cas. On pourrait le faire. On pourrait dire que les personnes handicapées ont le droit à la compétition comme les autres. Et puis, il y a un autre élément que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, qui est justement l'inverse d'un dispositif. Et c'est un travail qu'on avait fait avec Didier, justement, sur les personnes handicapées qui utilisent le sport à des fins autres que le sport. Notamment les sourds sportifs. Il y avait une fédération française des sourds sportifs qui a disparu parce qu'en fait, ils n'avaient plus de financement de l'État. Je résume. Hein. Et ce qui est intéressant avec cette situation-là, c'est qu'en fait, on voyait comment les sourds, alors les sourds de la communauté sourde, hein, c'est-à-dire qui militent pour avoir une communauté autodéterminée, comment cette fédération-là leur permettait de justement s'autodéterminer. Et ce que je trouve intéressant, en plus des éléments qu'on a mentionnés, c'est que l'idée d'accessibilité, de participation sociale derrière l'accessibilité et l'inclusion, c'est que, en fait, vous avez le droit de participer, mais comment, comme les gouvernants l'ont décidé, comment le gouvernement, au sens large du terme, l'a décidé. C'est-à-dire que, oui, vous pouvez faire votre sport entre vous, vous pouvez décider de ce que vous voulez entre vous, mais on ne financera que des activités où vous serez dans le giron qu'on a prédéterminé. Et ça, c'est quelque chose d'important, qui est une vraie difficulté dans l'organisation collective, en fait, de groupes sociaux, c'est que trouver des financements, public ou privé, c'est difficile quand on n'est pas dans les clous déjà prédéterminés par les mécènes ou les financeurs. Je vais donner un exemple qui est en dehors du handicap. Aujourd'hui, alors c'est arrivé souvent, je vous regarde parce que justement c'est lié, le monde de la capoeira en France a voulu se fédérer, a voulu faire une fédération de capoeira à 2, 3, 4 reprises. Et là, aujourd'hui, ils essayent depuis quelques années de se fédérer. C'est important le mot fédération parce que ça appartient au code du sport. Et se fédérer, ça veut dire s'auto-organiser, en même temps être reconnu et légitime. Le truc, c'est qu'on leur a dit, au niveau du ministère des Sports, c'est pas possible, n'y comptez même pas. Et donc, ils sont entrés dans une commission d'une fédération culturelle et sportive. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'autodétermination aussi, aujourd'hui, le handicap, à mon avis, c'est lié, elle est beaucoup amoindrie, alors qu'on parle beaucoup d'accessibilité, d'inclusion et de participation sociale. Et je pense qu'aujourd'hui, on a moins de marge de manœuvre collective d'organisation de ce qu'on veut soi-même créer comme milieu, comme monde social.
Merci, Martial. Donc, par rapport à cette question un petit peu de la capoeira, donc ça, c'est important de souligner, c'est que la capoeira donc, n'est pas considérée comme un sport. C'est pour ça que le ministère des Sports ne reconnaît pas l'activité. C'est la même chose pour le yoga, par exemple. Hein. Donc, ça peut être surprenant pour beaucoup, c'est que le yoga n'est pas un sport. Alors, le sport, le problème, c'est qu'on retombe sur la définition de ce qu'est un sport. Donc là-dessus, on pourrait avoir des définitions différentes, mais habituellement, le sport nécessite un engagement corporel important, enfin, en tout cas déterminant. C'est pour ça que, par exemple, les échecs, ce n'est pas un sport. Ou le tarot ou le bridge, ce n'est pas un sport, parce que l'activité cognitive est supérieure, normalement, aux activités corporelles. C'est le premier élément. Activité corporelle qui doit être important, si ce n'est très important. Deuxième chose, c'est l'institutionnalisation, d'avoir des clubs, d'avoir des fédérations et d'être représenté. Et la troisième paramètre, c'est la compétition. Toute activité physique qui n'a pas de compétition n'est pas un sport. C'est-à-dire qu'il reste une activité physique. Si vous faites une marche dans la rue, avec seul ou avec des amis, vous ne faites pas de sport, vous faites de l'activité physique. Alors ça, c'est quand même des définitions... On pourrait remettre en cause, hein, mais peu importe. En globalement, c'est un petit peu ce qui est retenu. Et surtout, à la clé, ce qui est important, c'est qu'à ce moment-là, on reçoit ou pas des subventions du ministère des Sports. La capoeira est un très bon exemple, je ne connaissais pas. Donc ça, c'est important. Le capoeira est une activité culturelle, comme le yoga, même si le capoeira, parce que j'en ai fait un tout petit peu du capoeira, c'est qu'il peut avoir un engagement corporel très important, voire fatigant. Hein, voilà. Et donc, par rapport, justement, je voulais te relancer un petit peu sur la capoeira. C'est que comme tu as travaillé beaucoup sur la capoeira, puis je sais que dans l'assistance, il y a des gens qui seraient sensibles un peu de t'entendre là-dessus. Par rapport à ton travail que tu avais fait, ton travail qui est ancien, aujourd'hui, de recherche, mais aussi, comme je sais que tu es pratiquant encore aujourd'hui de capoeira, quel est l'intérêt un petit peu de ces activités-là, justement, par rapport au handicap ? Est-ce que c'est un dispositif, justement, spécifique qui serait intéressant ou au contraire, par rapport à ce que tu as dit, est-ce que tu peux revenir là-dessus ?
Je vais juste faire une... tout petit retour en arrière. La capoeira, il y a tellement de difficultés à la définir que la question de la compétition...
Qu'est-ce que c'est ?
Attends. Il y a la question de la définition pour les capoeiristes eux-mêmes est difficile puisque régulièrement, des compétitions sont organisées et on essaye d'en faire un sport de compétition, justement. Il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour. C'est une controverse régulière, en fait, depuis les années 30, en fait. Hein. C'est pas quelque chose de nouveau. Par rapport à ce que tu demandais vis-à-vis des personnes en situation de handicap, le principal en termes d'activité motrice, activité physique, le principal intérêt, c'est que l'interaction entre deux joueurs, la pratique officielle, fait qu'un homme et une femme peuvent pratiquer ensemble, dans la même interaction qu'un enfant et un adulte, une personne avec des capacités motrices moindres, aussi une question de niveau de pratique. Deux personnes n'ayant pas le même niveau de pratique peuvent faire l'activité ensemble, ce qu'on appelle un jeu de capoeira, dans le cas d'une ronde qui est la ronde de capoeira, une activité reconnue comme patrimoine immatériel au niveau de l'UNESCO. Oui, depuis 2014. Donc l'institutionnalisation se fait dans le cadre de la culture plus facilement que dans le cadre du sport. Au niveau institutionnel, ce n'est pas anodin en termes de positionnement en fait, de l'activité. Après, il y a eu l'intégration de dimensions agonistiques, d'opposition, des coups de pied, etc., qui existaient dès le début et qui se sont ajoutés par la suite. Je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus. Mais finalement, ce qui est intéressant avec cette activité telle qu'elle s'est développée et institutionnalisée dans les pratiques sociales, pas en termes de fédération, c'est que finalement, a priori, on peut faire interagir des personnes très diversifiées sans, entre guillemets, adapter l'activité. C'est une activité qui, telle qu'elle, est déjà préparée pour intégrer n'importe quel type de public. À partir du moment où on comprend l'idée qu'on va être en face à face, qu'on va tourner dans un cercle et qu'on doit faire des esquives, des coups de pied, même si on ne les nomme pas forcément, on peut être non-verbal et tout à fait faire cette activité. Ce qui, moi, m'a paru très intéressant, en revanche, dans le travail doctoral de l'époque, et puis récemment, j'ai repris un certain nombre d'analyses que j'avais faites après la thèse, c'est que il y a deux aspects qui sont importants. C'est d'une part, je parlais de justement cette intentionnalité d'un certain nombre de personnes qui sont dans les activités. Ça va donner une couleur très, très différente. Isabelle, tu parlais de réadaptation. Moi, j'ai vu des professeurs de capoeira au Brésil faire œuvre de réadaptation en disant, en touchant les corps des personnes handicapées pour montrer quel était le bon geste. Et que là, on était dans une dimension performative alors qu'on n'était pas dans de la compétition. Il fallait atteindre le geste juste, le geste parfait, etc. Alors, il s'agissait de personnes qui étaient trisomiques, par exemple, qui, au niveau de la motricité, des capacités d'apprentissage, contrairement à ce qu'on se représente souvent, ne sont pas forcément déficitaires. On sait que bon, voilà, ça dépend en fait, beaucoup de l'individu, finalement. Et en revanche, il y avait dans un autre groupe un maître de capoeira qui disait de toute façon, ils ne vont jamais avoir les statuts les plus importants. Il vaut mieux qu'ils passent un moment ensemble. Oui, c'est une activité hiérarchisée, pas exactement comme les arts martiaux, mais un peu avec cette même logique-là de gradation, etc. Je pourrais en dire plus après, si vous voulez, mais en tout cas, oui, il y a le maître, le contre-maître, le professeur, etc., etc., et puis il y a différents grades d'élèves. Et du coup, ça, c'est un enjeu important de reconnaissance et de légitimité au sein de l'activité. Donc, ce n'est pas une activité sans enjeu. C'est comme dans le yoga, il y a énormément d'enjeux de reconnaissance d'une activité, d'une sous-discipline par rapport à une autre, d'ailleurs, déjà, et entre eux, entre professeurs de yoga. Il y a quand même toujours une hiérarchie dans ces activités-là. Et donc, les professeurs de capoeira sont reconnus, mais les personnes en situation de handicap peuvent, d'ailleurs, être reconnues comme professeurs de capoeira. C'est quelque chose qui peut s'observer. Et moi, à l'époque, quand j'ai fait la thèse, c'est le deuxième point, c'est que je m'étais intéressé à la boxe en France, parce que j'imaginais que, ouais, la boxe en France, il ne va pas y avoir de personnes handicapées reconnues, machin. Eh bien, en fait, non, c'est complètement faux. Il y a pas mal de personnes handicapées déjà qui pratiquent. Il y a même une licence handibox au sein de la Fédération française de boxe pour vraiment légitimer la question de la reconnaissance que tu évoquais, Isabelle. Elle est importante aussi du point de vue des fédérations. Il faut faire preuve de solidarité d'État pour avoir des financements. En fait, il y a des. Je parlais d'une personne en particulier, d'un boxeur qui avait une maladie dégénérative, qui est devenu professeur de boxe. Alors, je ne vais pas dire le degré, mais en tout cas, il pouvait entraîner des professionnels. Et il avait même créé un système de boxe et de canne de combat, puisqu'il avait aussi de la canne de combat qui est associée à la Fédération française de boxe française. Je suis désolé, c'est un peu compliqué. Où justement, ça permettait l'affrontement entre une personne en fauteuil et une personne debout. Et la commission canne de combat de la Fédé de boxe française a dit non, surtout pas, on n'est pas une pratique de personne handicapée. Donc, il avait égalisé les chances, vous voyez. Et en fait, toutes les activités peuvent s'égaliser. Sauf que si on considère que, justement, la compétition, c'est telle ou chose et telle chose, et ça correspond à tel geste plutôt qu'à tel geste, ben on ne va pas bouger, on ne va pas changer la règle. En fait, on pourrait très bien faire du football avec des gens en fauteuil et des gens pas en fauteuil. Sauf qu'on a décidé que c'était dangereux les personnes en fauteuil électrique, parce que ça va vite. Donc, vous voyez, on pourrait organiser les choses, on pourrait instaurer des règles pour les personnes en fauteuil électrique, pour ne pas aller trop vite, par exemple. On ne le fait pas. Donc, au niveau de l'activité physique et des activités physiques et sportives, tous les dispositifs sont imaginables. La réalité, c'est qu'après, les enjeux de reconnaissance et de légitimité, en fait, je parlais de solidarité d'État, mais ce qui va déterminer surtout la reconnaissance des pratiques, c'est leur rôle social. Le rôle social du yoga, justement, ce n'est pas la compétition. Par contre, le rôle social du foot, c'est la compétition, l'ascension sociale, etc. Et qu'il pourrait y avoir des joueurs de foot qui vont avoir un handicap visible, mais bizarrement, ça n'arrive jamais.
Le foot, ça pourrait être la rencontre, seulement le partage d'une partie, d'un temps de jeu, où l'objectif ne serait pas forcément de gagner.
Oui.
Ça existe, on en fait des fois, heureusement, des jeux pour seulement jouer et pas seulement gagner. Voilà. Merci Martial. On va redonner un petit peu la parole. Enfin, je vais redonner la parole un petit peu à Isabelle. Donc on a parlé un petit peu de l'accessibilité, c'était le premier point. Le deuxième point, un peu les dispositifs. Et là, on va basculer sur le troisième point, parce qu'évidemment, le temps avance. C'est sur les difficultés. En fin de compte, les difficultés un petit peu de l'inclusion, l'éducation inclusive. Et puis, comment un peu dépasser ces difficultés, si tu as des pistes ou si voilà, tu as des choses à nous proposer.
Alors ça, c'est la question beaucoup plus difficile. Parce que des difficultés, il y en a, évidemment, il y en a même beaucoup. Est-ce que j'ai des pistes? Je ne sais pas. Ce que je peux peut-être témoigner de quelques résultats d'enquête, voilà, que j'ai menés dans ce domaine. Mais peut-être avant, bon, ou après, on verra. Non, par exemple, ce qui est intéressant de constater, donc, c'est que tous vous avez vu, hein, il y a des dispositifs, donc des classes spéciales, des éducations spécialisées, des classes ordinaires, et que souvent maintenant, puisqu'on ne parle plus de classes spéciales, mais bien de dispositifs, on a des élèves qui sont donc affectés à, non pas d'ailleurs, je ne devrais même pas dire ça, enfin bref, qui dépendent de ces dispositifs, mais dont la volonté, puisque c'est ça quand même l'objectif, c'est que ces élèves soient quand même inclus dans des classes ordinaires. Donc on dit qu'ils sont en inclusion, c'est-à-dire qu'ils vont quitter cet espace un peu privilégié, un peu protégé, où ils ont une enseignante spécialisée qui suit un peu leur parcours et qui dispense une pédagogie adaptée, etc., très individuelle souvent, hein, parce que c'est des tout petits effectifs, pour se retrouver, pour certaines matières, avec, en principe, on essaie en plus de respecter la classe d'âge, parce que ça, c'est, voilà, on considère que c'est aussi un élément très important, c'est que de ne pas mettre un enfant de 14 ans avec des élèves de 10 ans, quoi. Donc, y a, voilà. Et puis, donc, tout ça est assez... ça fait des parcours extrêmement divers. C'est-à-dire que, bon, alors, donc, lors d'une enquête, parce que donc, le ministère d'Éducation nationale a un service qui fait des statistiques et qui, notamment, s'intéresse donc, aux élèves en situation de handicap, et on avait pu se greffer sur une de leurs cohortes. Ils avaient fait une cohorte. Donc, d'élèves, je ne sais plus, ça fait quelques années de ça, donc je ne vais pas forcément très bien me souvenir, mais je crois que c'était de l'ordre de 15 000 élèves, donc c'est quand même des populations, des effectifs assez importants. Et on avait regardé un peu justement comment ils se dispatchaient entre ces divans. Alors, je ne vais pas pouvoir vous donner les chiffres, parce que je n'ai pas du tout prévu de parler de ça, donc, mais enfin, il y avait donc des élèves qui restaient en institution. Alors, je pense que c'est moins de 20% maintenant. Autour de 20% peut-être, des élèves qui sortent des institutions pour aller dans l'école, mais ça peut être dans les classes, dans les dispositifs spécialisés souvent. Parfois, ils vont dans trois endroits. Donc, il y a trois niveaux de scolarisation, l'institution, le dispositif spécialisé et la classe ordinaire, souvent avec un accompagnant. Donc, vous voyez que ça fait beaucoup de diversité de modes de scolarisation. Alors, une des choses que j'ai pu observer, c'est que ces passages-là entre différentes structures, pour les jeunes et les écoliers, c'est assez difficile à vivre parce que, bon, ben, souvent, ils perdent, en fait, la cohésion de la classe, quoi. Il y a quand même un groupe classe important. Ils sont jamais finalement intégrés ni dans la classe ordinaire, ni vrai. Là où ils sont le mieux intégrés, c'est quand même dans le dispositif. Et puis, alors, le jour où il y a la sortie scolaire, ben justement, c'est le jour où ils sont dans l'institution spécialisée. Enfin, ça génère de la frustration. C'est quand même un peu compliqué. Et on avait regardé, justement, pour donner un peu de chair à ce genre d'observation, on avait plusieurs indicateurs qui permettait de voir comment se situait l'élève dans sa classe. Donc, il y avait le côté relationnel, s'il avait des amis, s'il invitait des amis. Enfin, voilà. Il y a le côté participation à la classe. Est-ce qu'il prend la parole? Est-ce qu'il prend des initiatives, etc.? Et il y avait le côté est-ce qu'il se sent bien? Voilà, du bien-être, forme de bien-être. Et on avait interrogé les familles. Parce que, voilà. Bon, et ce qui était intéressant, quand même, de constater, c'est que ceux qui manifestaient finalement le plus de bien-être et de participation, c'était les élèves qui étaient en fait dans les dispositifs spécialisés exclusivement, voire dans les institutions. Ou ceux qui étaient effectivement dans les classes ordinaires, mais sans accompagnant. Voilà. Alors évidemment, ce n'est pas les mêmes difficultés. Hein. On trouve des profils d'élèves très différents. En général, c'est les élèves qui sont en classe ordinaire sans accompagnant. C'est plutôt des élèves malvoyants, malentendants ou avec des déficiences pas trop importantes. Par contre, ceux qui se retrouvaient dans les classes ordinaires avec un accompagnant, eh bien, ceux-là, ils semblaient quand même être vraiment en déficit à la fois relationnel et à la fois de bien-être, quoi. Comme si, finalement... Et d'ailleurs, on a vu aussi, parce qu'on a fait des entretiens auprès d'adolescents, quand même, pour le coup, et à certains moments, effectivement, à un certain âge, à l'adolescence, ça arrive que les enfants ne veulent plus entendre parler d'avoir un accompagnant, qui préfère avoir des mauvais résultats, à la limite, que d'être stigmatisé, parce qu'il y a une réelle stigmatisation par la présence d'un accompagnant qui n'est pas toujours comprise, qui crée des formes de jalousie horizontale aussi. Hein, parce que dans une classe... Il y a aussi des enfants en difficulté pour d'autres raisons que le handicap, parce qu'en France, on a décrété que le handicap, c'était en lien avec un problème de santé. Il y a des pays où on ouvre davantage. Et quand on parle de besoins éducatifs particuliers, ça peut être lié au fait de mal parler la langue, venir d'une famille migrante ou une famille monoparentale, enfin, peu importe, des conditions de vie difficiles. Là, en France, non, on compartimente vraiment, c'est d'autres dispositifs. Et c'est vrai que ça, je l'ai observé souvent sur le terrain, c'est des enfants en difficulté qui finalement acceptent mal leurs difficultés, acceptent mal leur échec, bien sûr, mais acceptent mal aussi que le petit copain, lui, il a quelqu'un qui l'aide, qui lui trouve les réponses ou qui... voilà, donc c'est bon. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question. Je pourrais en parler encore longtemps. Mais je vais...
ouais, pour revenir sur les difficultés, quand même, là-dessus. Donc, tu dis qu'il y a évidemment une corrélation, sans doute, avec un petit peu la gravité, un petit peu de la déficience. Mais est-ce que, par exemple, il peut y avoir des publics particuliers? Je pense, par exemple, aux sourds profonds, par exemple, ou, par exemple, à la déficience intellectuelle. Est-ce que, par exemple, la déficience intellectuelle est compatible avec une scolarisation dans un collège ou dans un lycée, par exemple?
Alors bon, là, je vais répondre de façon plus intuitive parce que je n'ai pas vraiment de données chiffrées sur la question. Mais de fait, on sait, parce que les données de l'ADEP montrent aussi que justement, les déficients, eux, leur catégorie, c'est déficience cognitive. On en retrouve beaucoup moins passé dans le second degré. Hein, dans le premier degré, oui. Pour ce qui est de la surdité ou de... on a un collègue... qui s'appelle Étienne Doat, qui travaille, lui, sur les aveugles. Et je trouve son travail très intéressant parce qu'il montre... Enfin, on a toute cette problématique, justement, des écoles spécialisées, parce que il y a quand même, pour les aveugles, il y a un accompagnement autre que simplement l'instruction, l'éducation. Hein. Il y a comment se déplacer, apprendre à se déplacer, etc. Et aussi, il y a des formations à certains types. Alors, on pourrait dire que ça, c'est... un peu des stéréotypes, parce que c'est vrai qu'ils ont des formations extrêmement pointues dans le domaine de la musique, particulièrement, ou apprendre à accorder un piano, il y a les massages, tout ce qui est un petit peu tactile, etc. Mais ce qui montre très bien, après avoir interviewé plusieurs cohortes, hein, de différentes générations, c'est que sortez de cet institut spécialisé, des gens qui étaient souvent très bien formés et capables de s'insérer et de travailler, de gagner leur vie. Et que le fait d'inclure, entre guillemets, on pourra en dire long sur le terme inclusion d'ailleurs, dans l'école ordinaire, il y a beaucoup de choses qui sont perdues. Toute la spécialité, justement, toute la spécialisation de l'éducation, et en particulier le braille. Le braille, c'est très contraignant d'apprendre le braille. C'est vraiment difficile, mais les entretiens montrent aussi que c'est une autre approche de la lecture, une approche qui est sans doute plus proche des voyants, je suppose. Alors qu'on a évidemment plein de technologies aujourd'hui qui pourraient permettre de se dispenser de lire en braille, et notamment tous les systèmes de reconnaissance vocale, etc. Mais il semble, alors là, ce n'est pas moi qui parle, hein, je restitue ce que j'ai entendu de la part des personnes concernées, que c'est nettement moins, comment dire, performant, que c'est extrêmement fatigant aussi d'utiliser ces dispositifs, et surtout qu'on a, on ne, n'appréhende pas la langue et la communication avec la même qualité, quoi. Hein, donc voilà, donc ça soulève vraiment des... Alors, c'est pas pour dire que... Voilà, je veux dire, l'idée d'inclure, d'abord, ce qui est quand même assez étonnant. Tu disais tout à l'heure, Didier, c'était amusant parce que tu disais inclusion, intégration. Et finalement, c'est vrai que pendant très longtemps, on a utilisé les deux termes. Enfin, d'abord, on a parlé d'intégration, l'inclusion, effectivement, comme Martial le disait, c'est une notion assez récente. On a beaucoup parlé d'intégration. Puis quand le terme d'inclusion est arrivé, ben, finalement, moi, je vois bien dans les entretiens que j'ai faits, même les personnes du milieu, hein, des représentants d'associations, etc., utilisaient de façon un petit peu interchangeable les deux termes. Sauf quand même, et ça c'est toute une question pour laquelle je n'ai pas la réponse, mais je trouve que ça serait vraiment intéressant d'avancer, de mieux ça comprendre, pourquoi à un moment donné, on a décrété que l'inclusion, ce n'était pas l'intégration, et comme dit Charles Gardou, l'inclusion, on l'a définie parce qu'elle n'est pas, parce qu'on ne sait pas dire ce que c'est. Donc on dit ce que n'est pas l'inclusion, et on dit en particulier, ce n'est pas l'intégration, parce que l'intégration, alors, il y a une idée intéressante derrière ça, hein, l'intégration, elle fait porter la responsabilité sur les individus. C'est à l'élève handicapé de s'adapter à une classe qui a les mêmes programmes pour tout le monde, qui a les mêmes tests et mêmes évaluations pour tout le monde. Donc c'est sur lui que porte la responsabilité, même s'il peut avoir des aides, bien sûr. Mais et l'inclusion, ça doit être complètement autre chose. L'inclusion, ça doit être la responsabilité de l'école, de l'institution, de s'ouvrir à toutes les formes de diversité. Et là, on retrouve la notion de besoin éducatif particulier. Et d'être capable de répondre à tous ces besoins. Mais là, ça suppose que c'est l'école, c'est l'institution qui change. Or, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Eh bien, on passe par un système où on diagnostique, donc on est toujours dans le champ de la maladie du handicap, mais médical, hein, et on discrimine d'une certaine manière, donc de plus en plus d'enfants. Donc, il y a quand même quelque chose de l'ordre du paradoxe, c'est-à-dire que pour inclure, il faut d'abord distinguer, il faut d'abord spécifier. Et voilà. Et je finirai avec ça parce que j'ai un collègue suédois que je viens de, qui est à ce moment en France d'ailleurs, qui est Anders Gustafsson, qui est dans les sciences de l'éducation, qui m'a à un moment me disait, mais tu sais, en Suède, pendant longtemps, l'école n'avait pas d'élèves handicapés. En fait, elle n'avait pas de statistiques, elle était incapable. Alors qu'en Norvège, pays voisin où ils comparent souvent, en Norvège, ils avaient des statistiques, et comme nous, on a eu. Hein. Eh bien, allez, en Suède, ils n'avaient pas. Pourquoi ils n'avaient pas ? Parce que, en fait, l'État donnait des ressources directement aux écoles, parce qu'il n'y a pas de MDPH dans ces pays-là. Enfin, je crois qu'on doit être les seuls à fonctionner, d'ailleurs, comme ça. Donc, donner des ressources aux directeurs d'établissement. Il pouvait faire une demande en fonction de ses besoins, mais on ne lui demandait pas de justifier. En fait, c'était à lui de dispenser ses ressources en fonction des élèves et des besoins des élèves qu'il avait. Mais on ne cherchait pas à les... Aujourd'hui, c'est différent, même en Suède. Il faut, pour faire une demande de ressources, il faut pouvoir dire on attend d'élèves comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, et voilà. Et donc, ça coûte tant de... Voilà. Donc... C'est une conception de l'inclusion un peu particulière que je trouve est très confuse, apporte beaucoup de confusion dans nos débats, en fait. J'arrête là.
Merci Isabelle. Donc il nous reste 6 minutes. Donc si on garde une ou deux minutes pour des questions, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de questions, mais enfin si on garde un petit peu de questions. Martial, est-ce que tu peux nous parler un peu des difficultés, un petit peu justement des pratiques sportives, des pratiques physiques, de l'inclusion, et puis comment dépasser un petit peu. Tu as déjà donné quelques pistes tout à l'heure, mais est-ce que tu peux revenir un peu sur les difficultés qu'on rencontre habituellement, rapidement, et puis voir comment on peut les dépasser, ces difficultés?
Oui, alors, je l'ai déjà évoqué, hein, c'est la question de l'accessibilité du bâti, de l'organisation sociale aussi de l'activité et de ce qu'on veut en faire. La manière de dépasser ces problématiques-là pour les personnes handicapées, elles sont de plusieurs ordres, mais l'une des principales, ne serait-ce que pour pratiquer, c'est de trouver en fait un espace accueillant, pas accessible, mais accueillant, qui permette la participation sociale. Et le terme de participation sociale, ici, je l'emploie au sens plein du mot, c'est-à-dire que ce n'est pas juste être présent ou juste avoir le droit de concourir, c'est aussi organiser en fait la vie de l'espace, du milieu. Parce que moi, ce que j'ai pu constater, c'est que, par exemple, dans la capoeira, il y a beaucoup plus de place qui est offerte à des personnes différentes. Il y a une grande diversité corporelle dans la pratique. Sauf que vous avez le droit de concourir. Vous avez dans le jeu social. Dans la boxe anglaise dont j'ai brièvement parlé, c'est allé plus loin. C'est-à-dire qu'il y a des personnes handicapées qui ont créé une activité à l'intérieur de la boxe anglaise. C'est pas exactement la même chose. Alors qui correspond au canon actuel, on n'est pas dans, le sport des sourds, mais la même chose. Finalement, il me semble, moi, qu'une manière de dépasser ça, c'est de trouver des espaces ou de les co-créer ou de les créer, de les élaborer. C'est un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, pour justement pouvoir s'autodéterminer. Et là, c'est une manière de le faire. Je voudrais juste dire deux mots sur ce que tu disais, Isabelle, sur l'école inclusive, parce que je travaille aussi sur ce domaine-là. Moi, il y a quelque chose qui m'a véritablement frappé dernièrement dans des entretiens que je faisais sur des éducateurs spécialisés, des enseignants, des professionnels du paramédical qui œuvrent à l'éducation inclusive dans des relations interprofessionnelles. Donc, il y a plein de dispositifs très différents, très nouveaux, etc. Et ils disaient tous deux choses. La première, c'est que l'inclusion, oui, mais ça a ses limites en fonction des capacités des élèves. Alors, c'est pas inclusif, parce que être inclusif, bah, y a quand même des canons. C'est qu'en fait, on est tous capables d'apprendre et de progresser. Donc, voilà. Et le deuxième élément, c'est que l'inclusion, c'est le suivi individualisé. Quand on parle de besoins éducatifs particuliers sous l'angle du handicap, c'est individualisé. Or, les enseignants, ben, en fait, ils ne font pas du suivi individualisé, ils font de la gestion collective. Et du coup, il me semble qu'un des moyens de dépasser ces difficultés-là, c'est justement du côté du système scolaire, c'est d'inviter, même d'enjoindre les groupes professionnels à se saisir réellement de ces enjeux, plutôt que justement, on va faire des dispositifs, des aménagements, on va dire qu'on fait de l'inclusion, mais en fait, on prend que ceux qui peuvent réussir, et voilà, comme ça, on ne pose pas trop de problèmes. Et ce qui était intéressant, et je vais finir là-dessus, c'est qu'il y avait une espèce de consensus qui se crée, c'est le médico-social dans l'éducation nationale, c'est-à-dire, on va prendre des élèves en difficulté, on va vous briefer, vous les enseignants, et puis on va faire du soutien de psychologues, d'éducateurs spécialisés, d'ergothérapeutes, à l'intérieur de l'école. Donc, c'est ce que tu disais, il n'y a pas de définition approfondie de ce que c'est que l'éducation et l'école inclusive, donc c'est eux qui la font finalement, cette définition. Et je parle de territoires où il y a un engagement politique très très fort sur ce principe d'école inclusive, parce qu'il y a d'autres territoires, je ne vais pas le citer, où il n'y a pas trop d'engagement sur cette question-là.
Merci Martial. Il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles on pourrait répondre?
J'ai trouvé moi passionnant parce que j'ai écouté toutes les conversations sur intégration et inclusion, évidemment, j'ai pensé immigration derrière. En fait, on peut lire tout ce que vous venez de dire, c'est comme si c'était l'inverse du revers qu'est notre société. Et donc, qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, moi, la première chose, c'est je voudrais savoir si j'ai bien compris, on a l'impression que la capoeira, c'est le sport inclusif, enfin le sport pour tous, vraiment la définition, tout le monde peut y aller.
Alors oui, tout le monde peut y aller, mais comme il y a des enjeux de hiérarchie, de place, de position sociale à l'intérieur de l'activité, il y a une lutte acharnée. En fait, c'est l'égalité des chances pour tous, vous voyez, c'est plutôt ça. Après, bien évidemment, à l'intérieur de l'activité physique elle-même, oui, c'est accessible à toutes et tous. Et d'ailleurs, ils sont très très forts collectivement pour faire de la capoeira à la crèche, capoeira dans les centres de réadaptation, capoeira en prison, capoeira pour tous. Vraiment, dans tous les dispositifs, ils arrivent justement, en n'étant pas fédérés, ils arrivent à entrer dans beaucoup de domaines. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils essayent de se fédérer pour un certain nombre, alors qu'en fait, ils perdraient beaucoup en se fédérant. Me semble-t-il, je leur dis pas trop, parce que je connais ceux qui justement essaient de le faire, je me garde bien de leur dire, parce qu'ils sont dans une vision du sport en fait, capoeira qui deviendrait sport. Mais oui, mais c'est pas la seule activité, hein. C'est juste qu'elle a été organisée d'une certaine manière et qu'elle a une certaine image.
Pour répondre un petit peu à la question, parce que moi j'ai travaillé sur ce qu'on appelle l'activité physique adaptée, je suis un responsable de la formation depuis maintenant 40 ans sur cette question-là, c'est qu'il y a des activités sociales qui existent déjà, donc on peut les adapter. Et comme disait Martial tout à l'heure, il faut réfléchir et des adaptations, c'est possible. Mais aussi, on peut créer des nouvelles activités. Et c'est encore plus, à mon avis, plus intelligent. On le fait d'ailleurs beaucoup avec les maternelles, puis après on l'oublie un petit peu, et puis à partir du collège et du lycée, on est franchement dans les pratiques sociales, et on est enfermé dans ces pratiques sociales. Mais bon, par exemple, le rugby, moi, je me souviens que le rugby féminin et masculin, c'est-à-dire mixte, j'étais un de ceux qui ont un petit peu proposé les premières pratiques de rugby mixte il y a 30 ans, c'était incompréhensible pour les parents, voire incompréhensible pour les jeunes filles. en disant, bah oui, il y a un changement, il y a un engagement corporel qui n'est pas du tout le même. Alors c'est vrai. Donc de fait, il faut le prendre en compte. Et donc il faut limiter les engagements corporels des garçons par rapport aux filles. Donc il faut inventer un nouveau règlement. Voilà, alors bon, après, on peut avoir des formes de rugby, ce qu'on appelle le flag rugby, etc., etc. Enfin, il y a plein de choses. On peut, mais alors, multiplier les exemples à foison, hein, je veux dire, sans arrêt. Sauf que notre société, on a sélectionné des types de sports qui, en général, évoquent la compétition, et on est dans ce modèle-là. Et d'ailleurs, ce modèle sportif va bien à l'école, parce que l'école est sur le même type. C'est-à-dire, on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire compétitif. À un moment donné, sur tous les aménagements pour les personnes en situation de handicap ou les élèves à BEP, tout va bien sur les mises en place didactiques, on va dire, au mieux, disons, tout va bien. Ça commence à coincer sur l'évaluation. Et alors là, ça coince complètement sur ce qu'on appelle la certification, c'est-à-dire, en fin de compte, le diplôme. Dès le moment où il y a de l'enjeu pour avoir un diplôme, ça pose problème. Parce que moi, par exemple, sur l'université de Nanterre, j'ai eu des étudiants qui ont été en fauteuil électrique, tétraplégique, et qui ont fait une première année de STAPS, deuxième année, troisième année. Donc, de fait, par exemple, ils ne passaient pas certaines activités physiques parce qu'ils ne pouvaient pas marcher, mais en plus, au niveau des bras et des mains, ce n'était pas si simple que ça. Eh bien, on a vu des pétitions des autres étudiants en disant « Mais monsieur, lui, il ne peut pas avoir 18 en football, parce qu'il avait été évalué exclusivement sur les aspects théoriques. » Donc, de fait, les étudiants plutôt sympathiques, par ailleurs, en disant « Mais monsieur, il est handicapé, il ne peut pas avoir une licence comme nous. » Et ça, bon, j'étais aussi responsable pendant un certain temps d'être responsable handicap sur l'université. Deux exemples très rapides. Par exemple, un étudiant sourd qui a fait un cursus d'anglais. Et les collègues ne voulaient pas lui donner sa licence parce qu'il avait un très bon écrit d'anglais, mais était dans l'incapacité de s'exprimer en anglais oralement. Il pouvait le faire en langue des signes anglaise, mais pas oralement. Et donc, pour les collègues très gentils par ailleurs, c'était impensable, c'était pas possible. Et deuxième exemple, c'était en littérature, en français, enfin, en littérature, voilà. Et donc, un dyslexique qui faisait 3 fautes ou 4 fautes par phrase, mais qui était extrêmement brillant, une qualité, une compétence, enfin une connaissance de la littérature qui était extraordinaire. Et tous les collègues en disant, il est hors de question que cet étudiant-là puisse avoir sa licence de littérature. Parce qu'on ne peut pas, quand on fait une licence de littérature, faire 5 fautes par phrase. Ça pose un vrai problème, parce que c'est vrai qu'il y a des représentations. Il y a des représentations sociales qui sont tellement déterminantes qui fait qu'en fin de compte, et ça se pose quand il faut certifier, c'est-à-dire quand on évalue déjà. Alors, et en plus, alors, je ne parle pas des concours, parce que c'est certification, et en plus, quand il y a un concours derrière, là, c'est impossible. Les gens disent, mais ce n'est pas le même concours. Ce qui est possible, et d'ailleurs, c'est le cas, par exemple, pour les hommes et les femmes, par exemple, dans les STAPS et dans l'éducation physique, ce n'est pas tout à fait le même concours. Et d'ailleurs, il y a certains hommes qui disent, enfin, de candidats qui disent, ouais, mais c'est beaucoup plus facile chez les filles. Bon, alors, ça a toujours été, depuis qu'il y a un concours distinct. Moi-même, à l'époque, il n'y avait qu'un seul concours. Enfin, il y avait 2 concours, pardon, féminin, enfin, femme, homme. Maintenant, il y a un seul concours. Donc, de fait, on se retrouve aujourd'hui à avoir, par exemple, 2/3 des femmes qui ont le concours du CAPES ou de l'agrégation et 1/3 de garçons. Et ça pose un vrai problème parce qu'à un moment donné, il y a autant de garçons et de filles dans les collèges et les lycées. Et donc, de plus en plus, il y avait de femmes qui vont encadrer des classes de garçons et de filles. Ça peut poser à terme. Ça se pose, par exemple, dans les écoles maternelles où on a 97% de femmes. Je veux dire, c'est un vrai problème parce qu'à un moment donné, c'est pas à l'image de notre société où il y a des hommes et des femmes. Mais pour X raisons, on se retrouve avec des populations très importantes de femmes. Donc il y a plein de choses qui sont derrière et qui posent un peu problème. Il y avait peut-être une question par ici, une question par là, et on peut essayer de répondre.
On va sur le sujet. En fait, je me posais la question par rapport à l'appellation handivalide. Donc ça, dans les fédérations.
On va sur un terrain glissant là.
Concernant les handicaps qui sont fonctionnels dans le domaine du sport où il est pratiqué. Alors, par exemple, quelqu'un qui est invalide du bras et qui fait du foot, on dit que c'est un handivalide. Est-ce que. À quel point est-ce valorisé finalement dans l'intégration sportive ? Est-ce que finalement on peut retrouver des handivalides dans des compétitions régulières ou alors à ce qu'ils finissent toujours dans des compétitions mondiales et...
Alors, je vais répondre rapidement. Quand il y a une catégorie déjà existante dans le parasport, il est possible de mettre la personne dans le parasport, par exemple. Quand ça n'existe pas, bah, la personne, soit elle fait de la compétition, soit elle n'en fait pas. Et parfois, quand elle fait de la compétition, eh ben, elle peut très bien se débrouiller. Et ça va à un tel point que, par exemple, dans la boxe anglaise, on a régulièrement, alors il y avait notamment Jérôme Thomas qui avait un muscle pectoral en moins. Il y a aussi un sourd-muet, qui s'appelle Norbert Kaloxa, qui a été troisième au championnat du monde de boxe amateur en 2009, qui a participé aux Jeux de Pékin, aux Jeux Olympiques et pas aux Jeux Paralympiques, puisqu'il n'y a pas de compétition parasport. Donc en fait, en fonction du niveau de pratique et des capacités fonctionnelles, là en l'occurrence, bah, ils peuvent participer aux compétitions dites valides. À l'inverse, toujours sur l'exemple de la boxe, une personne en fauteuil roulant ne va pas faire de compétition dite amateur, valide entre guillemets, parce que justement il est en fauteuil roulant et que donc ça contrevient aux règles du sport. Donc en fait, ça va dépendre du contexte, en fait. Après, il y a une labellisation. Donc, il y a la licence handibox, par exemple. Dans la fédération de handball, il y a le hand ensemble. Je parlais de vivre ensemble ou de convivialité. C'est pas moi qui l'invente. Hein, c'est vraiment les personnes concernées dans les fédérations qui se sont appuyées sur ça, puisque c'est une mission régalienne. Enfin, régalienne, n'importe quoi. C'est une mission fondatrice, en fait, de leur légitimité en tant que fédération subventionnée. Mais après, ça reste invisible. C'est-à-dire qu'un bon joueur de foot, s'il a un bras en moins, on va pas voir qu'il a un bras en moins. C'est comme Jamel Debbouze, on a depuis longtemps oublié qu'il avait une main dans la poche parce qu'il avait un petit problème au bras droit.
Mais vous dites parasport ou handisport ? Ah.
Je dis parasport parce qu'il y a aussi le sport adapté. Puis il y a d'autres, mais maintenant on dit plutôt parasport par rapport aux Jeux paralympiques. Et en fait, handisport, c'est historiquement la Fédération française handisport qui regroupait un certain nombre d'activités. Mais bon, il y a un spécialiste national ici.
Oui, de plus en plus, on dit parasport. Voilà. Peut-être une dernière question, toute petite.
Peut-être juste là, par rapport à toutes ces questions autour du sport, ça, je me demande si la technique, finalement, peut être un frein à l'inclusion. Parce que ça me fait penser, parce qu'on va refuser, par exemple, à Pistorius, le fait que ça va l'avantager. Et la technique, même au sens large, ça me fait aussi penser aux personnes transgenres qui, on va dire qu'en fonction des hormones, c'est pas juste. C'est pas... Et donc, est-ce que, finalement, quand ça se voit pas, quand il n'y a pas de technique, donc là, vous parlez du pectoral, que là, ça va pas se voir très bien. C'est OK pour l'inclusion, mais dès que ça se voit et qu'il y a
des choses, c'est... Si, c'est clair. C'est une affaire complexe. Alors, il y a des travaux sur ça, justement les représentations autour des questions d'hormones, des questions de Oscar Pistorius avant qu'il aille en prison, qui est un autre problème. Et c'est-à-dire que sur ce qui va être invisible, généralement, c'est qu'il n'y a pas de modification corporelle. Vous voyez, y a pas on ne sort pas de la norme attendue pour être dans la catégorie valide. Parce que la catégorie valide, c'est quelque chose d'une leur normal, en fait, c'est d'être dans la moyenne. Ça renvoie ce qu'on dit en général sur ce qui relève du normal et du pathologique. C'est ça, c'est-à-dire que si on est trop haut, on est hors norme, donc il y a peut-être un risque, en fait. Donc ça renvoie à une conception médicale. Alors je fais vraiment des gros raccourcis sur le normal et le pathologique. Hein. Ce n'est pas exactement ce que dit Canguilhem dans son ouvrage. C'est le tout début. C'est l'interprétation qu'on en a même aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qui est vraiment important ici, c'est que tant que ce n'est pas reconnu, en fait, ce n'est pas visible, et donc on n'en parle pas. Petite anecdote aussi sur la boxe. Il y avait un boxeur amateur d'un bon niveau qui affronte un boxeur tchétchène. Et au milieu du combat, il se rend compte qu'il a des prothèses au niveau des jambes. Et le boxeur n'a pas réussi à continuer le combat et il a perdu au point. Donc il y a après ça dépend ce qu'on appelle l'inclusion. Hein. Si l'inclusion c'est le droit de se faire taper dessus et de taper sur l'autre, bon, c'est inclusif. Mais en tout cas, il y a toujours un lien avec les représentations et que le monde du sport, notamment le sport olympique, tente d'objectiver, d'universaliser, de naturaliser quelque chose qui est tout sauf naturel. Ce n'est pas naturel. Sauf qu'on dit que c'est naturel, la norme c'est ça la nature en fait. Bon, après ça pose plein de questions qu'on abordera peut-être après.
Ben, je crois qu'il n'y aura pas d'après. Enfin, pas après aujourd'hui en tout cas.
Non, mais il y a le champagne.
Ah, d'accord. Très bien. Toute petite chose, c'est la différence entre la technique et la technologie. Hein, je pense que ta question porte plus sur la technologie que la technique. Parce que la technique, justement, il faut faire redécouvrir la technique avec les capacités corporelles que la personne peut avoir. Par contre, la technologie, c'est intéressant de réfléchir là-dessus. Moi, je pense que d'un terme, très vite, il y aura ce qu'on appelle l'homme augmenté. On va bientôt avoir le sportif augmenté. Parce que, quelque part, justement, les prothèses étant une possibilité, comme la législation internationale l'a permise pour Pistorius en 2012, on va voir, et pourtant il y a des freins en ce moment, mais on va voir un petit peu, sans doute, des prothèses, alors pas forcément de jambes, etc., mais des prothèses liées à un moment donné, je ne parle pas dans 5, 10, 15, 20 ans, des cœurs augmentés, des poumons augmentés, des choses comme ça. Même déjà qu'il y a des produits qui permettent un petit peu d'augmenter tout ça. Et à mon sens, si on continue vers en direction de la compétition à tout va et de battre des records, on ira forcément vers ce type de nouvelles pratiques, on va dire ça comme ça, en termes de technologie. Alors on voit très bien, on change sans arrêt de chaussures, de revêtements, etc., etc. Donc il y a cette course effrénée de la technologie. Voilà, donc s'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là. Merci aux participants et merci aux invités.
Merci à toi.
À une prochaine peut-être. Au revoir.
Au revoir.